Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravisha Yassayag.
Te Gitin, page 58, DAF Nunhet.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Gitin Nunhet. Il est marqué dans le passage que vous venez de tirer avec Karim Metsoulaim et Paz. Demande la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Metsoulaim et Paz? Est-ce que ça voudrait dire qu'ils étaient habillés avec cette matière de Paz? Et pourtant, c'est marqué qu'à Rome, il y avait 50% du Paz mondial. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Là, au final, les Romains avaient trouvé que le peuple juif était plus joli que le Paz. Au départ, les Romains, quand ils avaient des rapports avec leurs femmes, ils mettaient devant eux toutes sortes de dessins qui étaient jolis, qu'ils avaient sur leurs bagues, mais après, ils attachaient des Juifs au pied de leur lit pour qu'ils les voient pendant qu'ils aient des rapports pour avoir de beaux enfants. Un de ces gens qui était attaché à Diallo, dis-moi, où est-ce que c'est marqué cette punition aussi dégoûtante? Il a dit, c'est marqué dans les planètes. Dame, quand le prédit, quand le maca, Charlo, Katou, va se faire à Torah, ça insinue cette punition. Il a dit, mais c'est loin de ce que j'ai terminé d'étudier? Il a dit, non, pas très loin. Encore une page et demie. Il a dit, sache que si j'étais arrivé là, j'aurais compris que c'était ça ce que la Torah insinuait. Agman nous dit que Rajbag, il a dit Eni olala nafshi mikol bnotirim. Il parle de quoi? Rajbag, il habitait à Béthar, il y avait 400 bétechnésiotes. Il avait là-bas, dans chaque bétechnésiote, 400 enseignants. Et chacun des 400 enseignants avait 400 élèves. Au départ, quand les goyim rentraient, les élèves pouvaient les rejeter facilement. Mais après, quand ils les ont tués, ils les ont entourés de leurs sfarim et les ont brûlés dans le feu. Agman raconte que Rabbi Shimon ben Chananya est parti à Rome. On lui a dit qu'il y avait un enfant juif qui était spécialement beau, qui était en prison. Il est parti, il lui a dit pourquoi est-ce qu'on a été puni? Il a dit le début d'un pasouk. Et l'enfant. Il lui a dit la suite du passeau qu'Abi Yoshua a vu ça, il a dit c'est sûr que ça sera amoré au rat, je suis prêt à payer ce qu'il faut pour le libérer, c'est ce qu'il a fait, il a payé cher pour le libérer, et c'était Rabbi Shmuel ben Elisha. L'Agma nous raconte que le fils et la fille de Rabbi Shmuel ben Elisha ont été pris en captivité, et ils ont leur maître, ses respectifs, ils se sont rencontrés, ils ont dit moi j'ai l'esclave le plus beau, l'autre il a dit moi aussi j'ai la servante la plus belle, alors viens on les marie, on se partage les esclaves, les enfants, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce soir-là, ils étaient chacun de son côté. Ils disaient, moi, je suis Cohen, fils de Cohen. Comment est-ce que je marie avec une chifra? Le matin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient frères et sœurs. Ils se sont enlacés. Et de peine, ils sont morts en étant comme ça. Et à leur sujet, nous dit, Amia, Léa, Nibouria, Nini, Urdimaim. Rech Lakish nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Tsaflat, Balpaniel. Tsaflat, tout le monde la regardait parce qu'elle était très belle. Balpaniel, fille de Cohen Gadol, qui a été violée toute une nuit. Et son celui qui l'a pris en captivité voulait la vendre. Un homme spécialement moche est venu pour la vendre, pour l'acheter. Il a dit, montre-moi sa beauté. Il a dit, non, elle est la plus belle du monde. Si tu veux pas, n'achète pas. Il a dit, non, fais quand même voir sa beauté. Et il l'a déshabillée de 6 des 7 habits qu'elle avait. Elle a déchiré le 7e. Et elle s'est roulée dans le FR. Elle a dit, mais Akadosh Baruch Hu, si tu n'as pas de pitié pour nous, mais aie pitié pour ton nom. Comme il est marqué, Batamich Agrisak, etc. Donc il a marqué que Bah, Shoded, Alenu. C'est-à-dire, et moi et toi, on en souffre. Rabbi Yehuda nous dit que quand il est marqué Bashku Gever Obeto Vacher Nachlato, on parle d'un homme qui était étudiant, qui apprenait la menuiserie chez son maître, et celui-ci avait besoin de prêt. Il lui a dit, bon, envoie-moi ta femme, je vais lui donner de l'argent. C'est ce qu'il a fait, il a envoyé sa femme, sauf qu'elle n'est pas revenue. Alors il est venu chez son élève, elle est où ma femme? Il dit, mais moi je l'ai envoyé, mais j'ai entendu qu'elle avait une histoire avec des jeunes. Il a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai pas divorcé. Il dit, mais je peux pas divorcer, j'ai pas d'argent pour payer l'acte. Il dit, moi je te prête. Et c'est ce qu'il a fait, il a divorcé. L'autre a récupéré cette femme, il s'est marié avec elle. Au final, il devait rembourser l'argent qu'il avait emprunté, il n'avait pas de quoi. Il lui a dit, comment je fais qu'est-ce que je fais? Il dit, ma mère travaille pour moi. Ce qui fait qu'au final, l'ancien mari se trouve au service de son ex-femme et de son ex-élève. Il était en train de les servir, eux étaient heureux et lui était en train de pleurer. Ses larmes tombaient même dans le verre qu'il leur servait. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Xardine contre le peuple juif. Certains disent que c'est parce que j'étais petit al-Benarichad, c'est-à-dire que c'était une femme mariée qui s'est retrouvée entre deux maris. L'Agma nous dit que ce qui est marqué dans la Mishnah, et si jamais je suis parti chez le Baal HaBayit après chez le Sikri quand ça marche pas, sauf si, d'après Rav, sauf s'il m'a écrit un shtar. Shmuel, même s'il m'a écrit un shtar, c'est pas suffisant. Une fois qu'il écrit une achayut, demande l'Agma, pourtant il est marqué qu'il faut qu'il y ait écrit une achayut. Répond l'Agma, quand on parle de achayut, c'est pas une achayut que je m'engage à te rembourser si jamais quelqu'un vient te prendre. Non, c'est une achayut que je vais pas, moi, venir t'embêter. Donc on parle d'un shtar, et donc cette braïta va dans le sens de Rav. L'Agmara nous dit que si jamais une personne X a acheté du Sikricon et il a consommé, il a utilisé ce terrain pendant 3 ans et après Y a acheté, eh bien l'ancien propriétaire ne peut pas venir les attaquer. Donc on parle de l'Agmara. Si Bémet, ils ont un argument, on a fait les choses dans les règles, on tapait ce qu'on devait payer, et donc le premier aussi, X aussi aurait pu se défendre comme ça. Et s'il n'y a pas cet argument, même Y ne peut pas se défendre. L'Agmara, en vérité, X, lui, à lui de se défendre. Mais Y, lui, peut pas se défendre, et c'est pour cela que nous, on va dire que Bémet, Y, n'a pas à te rendre le terrain, parce que quand X est resté devant toi pendant 3 ans, et que t'as rien fait, ça nous prouve que X, Bémet, l'avait acheté, et qu'il t'avait payé le ravia comme il fallait. Il est marqué dans la Brita que si jamais un goy a pris un terrain parce qu'il y avait une dette, ou parce qu'il y avait un paroute, eh bien, il n'y a pas cette halakha de Sikrikon, à savoir qu'après 1 an, le propriétaire ne peut plus rien. Non, il n'y a plus cette halakha, il peut toujours le récupérer.
La Braïta continue en disant qu'un parout, il faut attendre 12 mois. Mais tu viens de me dire qu'il n'y a pas cette halakha-là. J'ai dit, tu as raison, c'est Sigrikon qui a besoin de 12 mois. C'est limité jusqu'à 12 mois. Après 12 mois, on peut le racheter. La Gemara nous dit qu'en Bavel, il n'y a pas de Hanparout. La Gemara avait compris que ça n'existait pas ce genre d'histoire. Je dis, mais ça existe. Non, mais la Gemara, en Bavel, il n'y a pas de halakha de Hanparout. C'est-à-dire, puisque tu as des tribunaux et que tu peux attaquer, que tu n'as pas attaqué, donc ça veut dire que tu as été mochel. Et donc, si un juif a récupéré un terrain d'un non-juif qui te l'aurait volé et toi, tu n'as rien fait, eh bien moi, je comprends que toi, tu as été mochel, donc j'ai le droit de récupérer ce terrain. La Gemara nous raconte que Gidel Bar-Eilai avait racheté, enfin avait pris les parts de personnes qui s'étaient engagées à payer un impôt sur un terrain pour le travailler et qu'ils ne l'avaient pas fait, et donc il avait lui pris leur place. Mais il avait payé 3 ans d'avance d'impôt, après ces gens-là sont revenus. Alors ils lui ont dit, écoute, l'année où tu as payé les impôts, où tu as profité, tant mieux pour toi, mais les 2 autres années, tant pis pour toi, nous on récupère nos terrains, on paye les impôts et on prend le droit de travailler ce terrain, tant pis pour les années d'impôt que tu as payé. Il est parti chez Rav Papa. Alors Rav Papa voulait les obliger à rembourser cet argent-là. Il lui a dit, Ravuna, mais non, c'est pas comme ça. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a une histoire de Sikrikon, c'est-à-dire que c'est comme si c'était sa propriété qu'il avait le droit de récupérer. Or, ça n'est pas le cas, c'est pas la propriété ni de lui ni de l'autre, c'est la propriété du roi. Le roi impose son impôt, il a le droit de le faire. La Gemara dit, ben tu as raison, dans ce cas-là, cette personne, Gidal Barilaï, qui avait payé pour ce terrain, tant pis pour lui, il a perdu cet argent. Dans la Mishnah, c'est marqué que celui qui rachète le terrain du Sikrikon, il doit payer Ravia. On a une marloquette. Rav, tout le monde est d'accord qu'on peut payer ou un terrain ou un argent. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on paye un quart de la somme payée ou est-ce qu'on paye un quart de la valeur du terrain? Quelle est la marloquette? En vérité, quelle est la remise qui a été faite? Rav pense que c'est une remise de 20%. Donc, tu dois payer. Donc, lui, quand tu l'as acheté, tu as reçu une remise de 20%. Donc, paye un quart de la somme que tu as versée, ce qui fait que tu vas payer ces 20%. Alors que Shmuel, lui, pense qu'il faut payer un tiers de la somme qui a été versée, puisque lui, t'as fait une remise de 25%. Et donc, toi, tu dois payer un tiers de la somme que tu as versée, ce qui est un quart, en vérité, de la valeur du terrain. Dans la Gemara, pourtant, c'est marqué, dans une Maratha, c'est marqué clairement qu'il doit payer un quart, comme Rav nous a dit. La Gemara nous dit, bien sûr, c'est un quart. Un quart de quoi? Un quart du total. Ce qui fait que c'est un tiers de ce qu'il a déjà versé au Goy, mais c'est un quart du total. Rav nous raconte quand il était chez Rebbi, c'est là qu'ils avaient décidé qu'on laissait un an avec la possibilité de racheter et après on laissait à n'importe qui de racheter. Dans la Gemara, comment se fait-il que Rav a été consulté en premier? Pourtant, on sait qu'en général, dans tout ce qui est à l'achat de Mammon, les petits sont consultés en dernier et Rav dit qu'il a été consulté en premier. La Gemara, parce que chez Rav, toute consultation c'était toujours par le plus petit parce qu'il ne voulait pas commencer par le plus grand de peur que le plus petit qui viendrait après et dirait le contraire s'opposerait au plus grand. On va résumer un peu ce qu'on a dit. On a ramené plusieurs histoires horribles, comme celle des des juifs qui étaient attachés au pied du lit des Romains, comme celle de Bétar, qui ont 400 bateknesset avec 400 enseignants et 400 élèves par enseignant, qui ont tous été tués. L'enfant qui a été racheté à Bishmael Ben Elisha, ses 2 enfants lui ont été pris en captivité, ils sont morts enlacés l'un dans l'autre. Cette femme qui s'est jetée dans la cendre parce qu'on a profité d'elle de sa beauté. C'est ce voyou qui a réussi à arnaquer son maître et qui a récupéré la femme de son maître. La halakha qu'on ne peut pas récupérer un terrain quand on l'a d'abord acheté chez le Sikrikon et après chez le Balabait, sauf s'il a écrit un shtar d'après Rav ou s'il a écrit une achayout. Si jamais le X a racheté du Sikrikon et qu'il a consommé pendant 3 ans, Y lui n'a plus besoin de se défendre. On va le défendre. Si le terrain a été récupéré parce que le juif devait de l'argent ou stam parce que le gars est un voyou, le juif peut le récupérer n'importe quand, sauf en Bavel où il aurait pu aller au tribunal et se plaindre. Marloquet entre Rav et Shmuel, est-ce qu'il doit verser un quart de la somme versée ou un quart de la valeur? Rav a été consulté en premier, bien que c'était chez le plus petit, puisque chez Rebbi, c'est comme ça qu'on faisait, on consultait toujours le plus petit, le Dafek Labo Hashem, il y a demain Bezrat Hashem.